Et salut, très rapidement, si tu aimes le podcast et que tu veux le soutenir, n'hésite pas à partager les épisodes autour de toi, à mettre 5 étoiles partout où c'est possible, à commenter sur ton appli de podcast et à me rejoindre sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, TikTok et LinkedIn. Merci.
Avec quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées et après j'ai pleuré.
Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce dernier épisode de la saison 1, je suis Cédric, je suis ravi de vous recevoir seul pour terminer cette saison. Je tiens avant tout à vous remercier pour votre soutien sur les réseaux sociaux, enfin sur Instagram principalement. Vous remercier pour les commentaires qui ont déjà été mis, pour les 5 étoiles sur Apple Podcasts qui ont déjà été mises. Si ce n'est pas fait, vous pouvez bien sûr aller le faire. Voilà, je voulais revenir avec vous, entre nous, tranquillement, sur cette saison 1. Donc, dans cet épisode, vous n'allez pas apprendre grand-chose, on va juste papoter un peu. Et je voulais avant tout commencer par vous révéler un grand secret, et ce que je vais vous dire, c'est surtout que moi, je...
C'est moi, c'est Fanny Vella et je prends le contrôle de ce podcast.
Mais qu'est-ce que tu fous là, Fanny ?
Bah écoute, Cédric, je trouve qu'on t'entend un peu trop poser des questions aux autres et puis qu'en fait, on aimerait bien en savoir un peu plus sur toi. Donc j'ai décidé qu'aujourd'hui, je serai pas ton invité, mais en fait, c'est toi qui vas être l'invité de ton propre podcast.
Ah bah d'accord, bah, vous noterez que Fanny Vella ne respecte pas mon consentement. Mais bon, comme j'aime bien l'idée, je dis oui. Allons-y, pourquoi pas.
Non, mais écoute, c'est un plaisir, Cédric, parce que je suis une petite pirate, vu que j'ai demandé ton accord avant de proposer ce format-là. Mais je suis trop contente parce que tu es quelqu'un de fort intéressant, je le dis, parce que j'ai la chance de pouvoir communiquer avec toi régulièrement en privé. Et que, de ce que j'entends dans le privé, je trouve qu'il y a des choses qui pourraient être intéressantes de partager avec, toutes les personnes qui adorent écouter ton podcast. Est-ce que tu es d'accord avec ça ?
Je suis d'accord, Fanny. mais je t'appelle Fanny ou Capitaine ? Comment ça se passe ?
Écoute, tu peux m'appeler Capitaine, ça me va pour tout le podcast.
Ok, Capitaine.
Eh bien, Cédric, présente-toi. Qui es-tu ?
Qui je suis ? Je suis un homme blanc d'1m93, cisgenre, hétérosexuel, papa d'une petite fille de 2 ans qui s'appelle Sarah. J'ai une compagne qui s'appelle Noëlla, qui est une femme, cisgenre, hétérosexuelle, métisse. Je ne dirai pas sa taille parce que ça l'embête. Je ne dirai pas son âge parce que voilà. Et écoute, moi, je suis un papa qui a décidé il y a quelque temps de créer un podcast qui s'appelle Papatriarcat. D'ailleurs, pour ça, j'ai fait appel à, pour mon visuel, j'ai fait appel à une artiste extrêmement talentueuse pour créer le visuel. Et pour le coup, je me suis lancé en fait parce que je voulais qu'un homme prenne la parole sur ces sujets de parentalité parce que les sujets sont passionnants et souvent très bien amenés. Mais en fait, je voyais que des femmes dans le paysage qui me dérangent pas, si tu veux. Mais je me disais, mais attends, mais merde, quand même, les mecs, on a des trucs à dire, on ressent des choses quand même. Et puis aussi parce que il y a cette fameuse prise de conscience sur le patriarcat et le système patriarcal que je veux combattre. Et en toute sincérité, je vais dévoiler un truc de malade. On m'a déjà posé la question, si t'as vu un garçon, est-ce que t'aurais eu cette démarche ? En toute sincérité, je ne pense pas que j'aurais eu. J'ai voulu pendant quelque temps me convaincre que j'aurais eu la force d'esprit de le faire quand même, mais non, je pense pas en fait. Ce que je veux, c'est pour regarder ma fille dans les yeux dans 20 ans et lui dire, écoute, on a fait de notre mieux quoi.
Eh bien écoute, merci Cédric, tu as répondu à toutes mes questions en une seule phrase. On peut s'arrêter là.
Non, c'était le podcast le plus court du monde, merci.
Mais le plus efficace aussi. Non, c'est très bien et j'ai envie de rebondir tout de suite sur quelque chose que tu as dit. Tu parlais de la place que les papas ne prenaient pas dans une parole qui ne s'octroyait pas autour des thèmes de la parentalité. Et donc, toi, c'est ce que tu t'es permis de faire et c'est génial. Merci. Parce que vous avez toute votre place dans cette thématique-là, vu qu'a priori, jusqu'à preuve du contraire, un bébé, du coup, ça se fait à deux. Attention, on le sait, hein, qu'il y a des possibilités d'éduquer un enfant seul, mais voilà, on va parler d'une façon globale. Un enfant se fait à deux, dans un duo, et généralement, c'est vrai que c'est papa bah, du coup, ils prennent peu la de parole, en fait, en tout cas, dans cette thématique-là, alors qu'en fait, les choses bougent quand même assez rapidement et qu'en fait, ils arrivent à trouver une place assez conséquente au sein du foyer. Mais quand il faut aborder toutes ces thématiques-là, c'est vrai qu'en fait, on laisse un petit peu les femmes sur le devant. Je sais pas, c'est ma femme qui répondra, je sais pas, c'est la maman qui sait mieux, alors qu'en fait, vous savez totalement. Et comment toi, t'arrives à expliquer ça, justement, ce manque de prise de position de la part du papa
Alors, je dirais que c'est une question, tu m'attaques avec une question qui est extrêmement complexe et globale. Je dirais qu'il y a plusieurs facteurs. Déjà, commençons par le début. Quand tu as mon âge et que tu es élevé comme un petit garçon, on t'explique déjà que tout ça, c'est des trucs de gonzesse, d'accord ? Les émotions, le faire des enfants, en fait, et s'en occuper, déjà, c'est des trucs de gonzesse. Faut pas se mentir. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai été éduqué, si tu veux. Et puis après, socialement, tu as... J'ai fini un livre récemment hyper intéressant, c'est « Pourquoi les pères travaillent-ils trop ?» de Sylviane Giampino. Bien connu pour son rapport Giampino sur l'éducation de la petite enfance. Et il était passionnant parce qu'elle analyse tout ça avec une pertinence assez dingue qui explique que tout est fait en fait pour que le père ne s'occupe pas, si tu veux, de ces questions-là. À commencer par le congé paternité déjà. Hein, on jure, donc on milite avec mes camarades sur ce sujet-là aussi. On jure, c'est ridicule. En on jure, tu n'apprends rien, tu n'as même pas le temps d'accueillir qui que ce soit ou quoi que ce soit, sachant que dans ces 11 jours, tu as potentiellement un certain temps à la maternité aussi, qui peut être plus ou moins long selon les conditions de l'accouchement. Là, je ne parle même pas des gens qui accouchent à domicile où, en effet, on peut être dans le cocon tout de suite. Mais tu as déjà ce contexte-là, tu as cette vision aussi socioculturelle de l'homme qui travaille et qui ramène l'argent, et c'est son rôle, tu vois. En fait, vraiment, si je devais schématiser, c'est... Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de pères de ma génération et un petit peu plus jeunes aussi qui sont pris dans cette espèce de paradoxe de « il faut que tu sois un papa moderne qui aime ses enfants, qui leur accorde plein de temps, mais de notre côté, tu as droit à 11 jours de congé paternité et il faut que ce soit toi qui ramène le plus de pognon à la maison et c'est comme ça que tu vas exprimer l'intérêt à ta famille. » C'est pour ça que souvent, si on utilise le mot de parent impliqué et je trouve que le mot impliqué, il est erroné parce que c'est aujourd'hui un père... Qui travaille dur pour amener de l'argent à la maison. Je ne dis pas que les femmes ne travaillent pas dur, attention. Mais un père qui voit son rôle de père comme je travaille dur, je ramène de l'argent à la maison et je suis la figure d'autorité, c'est la vision du père, si tu veux, qu'on lui a transmis. Tu vois ? Et ce deuxième point, la figure d'autorité, c'est aussi un point important de la figure de la parentalité qu'on nous a transmis. C'est-à-dire que le père, c'est celui qui intervient, tu vois, souvent avec violence, pas dans l'émotion, puisque de toute façon lui-même ne connaît même pas les siennes, tu vois. Donc c'est compliqué. Et je vais donner un exemple tout bête. Je me rappelle, on était chez des amis pour l'anniversaire de leur fils, et puis leur fils il joue avec une télécommande pour des volets, un truc comme ça, tu vois. Ouais. Et c'est bon, déjà on s'en fout qu'il joue avec, mais bon, la mère ça l'a gassé, donc elle lui dit non, tu le bosses, nanana. Bon, tu te demandes quel est l'enjeu, mais c'est pas grave. On respecte, elle y va. Puis le gamin, il n'écoute pas. Enfin, il a un jeu, il ne comprend pas pourquoi on veut lui enlever. Enfin, tu vois, le truc classique, quoi. Et là, elle appelle son mec. Donc, on va l'appeler Martin. Et elle lui dit... oui, c'est confidentiel. Et elle lui dit... Martin, fais quelque chose, il y a ton fils qui obéit pas. Et là, parce que c'est un ami, donc alors, sûr, t'en as parlé, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête ? Un, le rôle du père, l'injonction, tu vois. Je dois être autoritaire, voire un peu violent, tu vois. Le rôle viril. Je suis devant des amis, j'ai cette injonction, je dois jouer mon rôle, tu vois, je dois montrer que je suis un père qui sait se faire respecter, tout ça. Et puis je dois répondre aussi à cette injonction d'aider ma femme aussi, mine de rien, tu vois, qui est en difficulté. Donc il y a tout ça qui se présente, et ça c'est la vieille vision, tu vois. C'est la vieille vision, mais qui n'est pas aidée. Aujourd'hui, socialement, les pères ne sont pas aidés à prendre leur place. Et ça à différents niveaux. On a parlé du congé paternité, on peut aussi se parler de l'absence totale d'accompagnement des pères dans le projet de naissance, d'accord ? C'est pas du tout évoqué, sauf à quelques exceptions avec des sages-femmes bien, on va dire, bien orientées qui savent accompagner le père un petit peu, mais ceux dans le développement de l'enfant, tout ça, on ne dit rien, les émotions, on ne dit rien. Et puis, t'as aussi tout ce vocabulaire qui est un petit peu particulier. Et qui est socialement rejette de toute façon le rôle du père. Par exemple, tu as une grande émission de télé qui traite de la petite enfance, ça s'appelle Les Maternelles. ça s'appelle pas les parentales, tu vois.
Non, mais oui, mais complètement. Et je te rejoins absolument, tu vois, quand tu parles de forcément ce congé paternité. En fait, bon, bah, moi, je suis absolument derrière vous dans ce combat. Enfin, pas derrière, en fait, avec vous dans ce combat. Pour essayer de l'allonger, parce que je vois bien que même sur des familles qui ont une ouverture d'esprit qui tend à vraiment donner une place au papa, donc je parle de ma famille, hein, mon trio à moi, et ben mine de rien, l'inconscient nous rattrape. C'est comme pour les VEO, hein, les violences éducatives ordinaires, il y a une sorte d'automatisme qui nous rattrape. Et moi je sais que j'avais beau vraiment vouloir à ce que Thibaut s'investisse et tout ça, Thibaut étant mon conjoint, le papa de ma fille, j'avais quand même ce truc qui faisait que tant qu'il travaillait, il a repris donc le boulot, voilà, 11 jours après la naissance de ma fille, voilà, comme la majorité des papas malheureusement. Et à partir de ce moment-là, et ben du coup, chaque geste qu'il faisait, il attendait mon approbation. Est-ce que c'était OK qu'il change les lits comme ça? Est-ce que c'était OK qu'il lui mette ce produit-là? Est-ce que c'était OK que pour tout? Et c'est vrai que même moi, en fait, je sais pas si je l'ai accompagné vers un truc au début en lui disant « fais-toi confiance ». Je suis à peu près sûre d'avoir essayé de le faire, mais je pense que ça m'a demandé un effort en moi de pouvoir lâcher prise sur « est-ce qu'il fait bien ?» Parce que bah, moi, ce bébé, je le connais, je le fréquente chaque minute, chaque seconde de cette journée. Et lui, quand il rentre, c'est déjà tard et tout ça. Et forcément, c'est super difficile de trouver ces marques. Je vois bien, je suis maman. Et pour autant, quand je vais voir des amis à moi qui ont des petits bébés, je ne sais pas comment m'occuper de ce bébé-là, en fait, parce que ce n'est pas mon bébé. Et c'est vrai que c'est important de pouvoir, nous, maman aussi, donner une place au papa en lâchant prise sur les erreurs, je mets des grosses guillemets, qu'il pourrait faire, qui ne sont pas peut-être les gestes que nous, on aurait adoptés et tout ça, les orienter avec bienveillance sur, tu sais, ça serait bien plutôt de prendre le bébé par là ou de faire ci, de faire ça, pour que papa puisse vraiment prendre confiance dans son rôle. Et quand bien même, moi j'ai eu une chance inouïe, c'est que mon chéri finalement, c'est arrêté de travailler pendant un long moment pour pouvoir être avec nous. Et du coup, il a trouvé toute sa place et c'était vraiment chouette. Mais quand un papa est obligé de travailler à temps plein, de pouvoir nous aussi leur prêter main forte dans cette prise de confiance en eux. Je ne sais pas comment toi, ça s'est passé justement depuis la naissance de ta fille.
Alors, en fait, moi, j'ai beaucoup de chance parce que ma fille est née un 7 juillet. J'ai beaucoup de chance parce que mon directeur était, qui s'appelle Thomas Bondou. Tiens, on va lui faire une petite pub. Thomas Bondou, qui est un mec formidable. Donc, mon ancien directeur, je travaillais à la FNAC de Poitiers. On s'était calé, en fait, sur le fait que je voulais prendre un congé parental aussi. Donc, j'avais économisé, c'est-à-dire que tu c'est un projet que tu prévois parce que ça coûte une certaine somme d'argent. Et donc, j'avais prévu un congé parental. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais prévu un laps de temps, si tu veux, avant le terme, un petit peu avant le terme, une petite semaine avant le terme, et ensuite, donc elle est née 7 juillet jusqu'à fin septembre, si je suis retourné bosser 2 semaines au milieu, en fait. Voilà, donc j'ai réussi à m'organiser comme ça, et ça a été hyper important, et vraiment, je souligne le fait d'être présent dans les derniers moments, parce que nous, on a une situation un peu particulière, qui est que je me rappelle très bien, c'était le 28 juin, ma compagne m'appelle, et elle me dit, écoute chérie, je suis à la maternité, il y a une alerte, ils veulent faire ci, ils veulent faire ça, moi je veux pas, et là toute seule, je sens que je vais pas tenir et je me sens pas bien, et ok, donc je suis allé voir, j'avais un autre collègue cadre qui était dans le magasin, je lui dis tiens, je te laisse les clés, moi je pars, et j'avais laissé une voiture à Poitiers en fait pour pouvoir partir n'importe quand, donc je pars, je prends la voiture, je roule, 3 heures après je suis là, et on est devant le médecin qui explique qu'ils veulent déclencher, alors que il n'y a aucun signe, si tu veux, de... Enfin, il n'y a aucun danger pour l'enfant. Sauf qu'en fait, on est dans une logique de maternité, de puériculture qui est ce qu'elle est, avec une question de rendement, une question de prise de risque, une question de comment dire, de statistiques. Voilà, une question de bien gérer ces statistiques. Putain, c'est dur à dire, je laisserai quand même. ces statistiques. Et c'est dramatique parce que humainement, ça mène à des interventions où on nous dit mais vous vous rendez compte de ce que vous allez faire, mais vous mettez en danger la vie de votre bébé, alors que pas du tout, en fait. Il y a eu des mômes hyper durs, alors que pas du tout. Et donc, on est parti contre avis médical. On a signé une décharge contre avis médical.
C'est dur d'avoir suffisamment confiance en soi pour prendre cette décision. Là, quand on parle de contrer, entre guillemets, un avis médical, enfin, est-ce que c'est parce que vous aviez un certain âge et que du coup, vous aviez un peu de confiance? Je pense à des jeunes parents d'une vingtaine d'années, ce genre de décision-là, elle est vachement dure à prendre.
Ah mais bien sûr, mais elle est d'autant plus dure que ma compagne est professionnelle de santé, elle est dentiste, elle partir contre avis médical, mais elle se sentait mal dans la voiture. Moi, si tu veux, en plus, je suis un petit peu con des fois, je suis un peu bourrin. Donc, quand je vois quelqu'un qui met ma compagne mal, j'ai juste envie de dire, va te faire foutre. Donc, tu vois, moi, j'étais un peu dans ce mode-là. Mais l'énorme chance qu'on a eue, c'est d'avoir aussi une sage-femme, en fait, à l'extérieur dans la maternité, qu'on avait rencontrée, consultée, qui était hyper intéressante. Pour te dire, à la base, ma compagne a voulu un accouchement très médicalisé, sans aucune douleur. Voilà, ça, c'était son souhait de départ. Elle a rencontré cette sage-femme, on a fait des séances ensemble. C'est-à-dire que j'ai posé des jours aussi, moi, pour y aller. Et en fait, elle se retrouvait presque à vouloir faire l'accouchement à domicile, tu vois. Parce que, mais c'était formidable, moi en tant qu'homme, tu vois, je trouvais ça époustouflant de voir la puissance du corps féminin pendant un accouchement, ce qui peut se passer, et l'accompagnement que toi aussi en tant qu'homme et compagnon tu peux faire, chose qu'on ne te dit pas du tout à la maternité en fait. Et donc si on était dans ce contexte-là, et puis on voulait pas, et donc on y retourne tous les deux jours on part contre avis médical. Arrive le terme du 4 juillet, non, toujours pas, on veut pas. Et voilà comment ça s'est passé, et pour le coup, donc, pour revenir à la question du temps que je passe après, donc j'avais pu bricoler, si tu veux, avec mes congés d'été, et cette période de congé parental que j'ai pris, et donc je suis resté pas loin de 3 mois complètement avec ma femme et ma fille, et c'est sûr, c'est évident que ça a posé des fondations hyper solides, si tu veux, à partir du moment où j'étais là le 28 juin. Je vais te dire une chose, c'est entre le 28 juin et l'accouchement qu'on a regardé Même qu'on est imbattable de Marion Cuerc, qui m'a transcendé, que j'ai découvert ton travail sur Et si on changeait d'angle, qui m'a, je vais pas te refaire le... en fait, je vais vous le dire, il y a pas longtemps, j'ai fait un retour à Fanny sur son livre et j'ai pleuré en lui racontant.
Non. Donc,
je vais essayer de pas recommencer, mais voilà, il y a ça qui m'a vraiment bouleversé aussi. Et puis en fait, le truc, c'est qu'une fois que tu mets le doigt dedans et que tu trouves en fait ce truc qui était au fond de moi aussi, tu vois, ça me travaillait, ben tu prends le fil et t'y vas, et tu creuses, et ensuite quand ta fille arrive et que tu ressens, mais toute ma, là c'est, je suis un peu ému là, toute ma vie je vais
on
m'en rappeler.
On veut des larmes, on veut des larmes.
Toute ma vie je vais m'en rappeler, si tu veux, cette quand je la prends dans mes bras, si tu veux, pour le premier pot à pot, entre le moment, ma femme a eu une césarienne, entre le moment où elle est sortie, où elle a eu le premier pot à pot avec sa mère, et le moment où on amène ma compagne dans la salle pour la première tétée, je suis en pot à pot tout seul avec ma fille, ça dure 15 minutes, mais c'était merveilleux. Ensuite j'ai la première tétée, et ensuite repos à pot pendant 3 heures tout seul, mais ça a été c'était fou. Et quand tu ressens tout ça, si tu veux, je me suis dit mais heureusement que j'ai rencontré attends, 2 secondes.
Oh, j'adore.
Ouais, attends.
Et tu pleures, pas pleurer, hein, attention.
Mais c'est pour ça, je fais attention. Et si tu veux, c'est pour ça que un homme, ça peut pleurer, hein, j'insiste, hein, jusque-là, on est quand même en interview. Mais, si tu veux, je ressens cet amour-là, et je fais toutes les connexions avec ce que j'ai lu, vu et entendu pendant cette petite période et avant l'accouchement. Et je me dis, mais oui, mais bien sûr que la violence éducative ordinaire, c'est pas ça la solution. Bien sûr que ça doit meurtrir un parent. Il y en a beaucoup qui disent que la violence, c'est quand il n'y a pas d'amour. J'ai lu ça d'ailleurs dans les commentaires de mon post sur les VO. La violence, c'est quand il n'y a pas d'amour. Moi, je suis pas convaincu. Je pense que la violence, c'est quand on est face à une situation qu'on ne sait pas gérer, si tu veux. Tu peux avoir des violences ordinaires avec des gens qui ont beaucoup d'amour et qui en souffrent énormément. Et bon, bref, je dévie complètement de sujet. Et tout ça pour dire, moi, ce qui s'est passé, c'est que juste en là, ensuite, je suis retourné travailler 2 semaines, début août. Ça a été terrible, terrible. Je le raconte dans mon interview chez Catherine de Liquet. Je suis parti 3 jours, et attends, parce que ça me re-émeut. Je suis parti 3 jours, et je m'attendais, tu vois, dans ma... Pourtant, avec tout ce que j'avais lu, si tu veux, je m'attendais à avoir une enfant qui allait me le faire payer, tu vois, qui allait m'en vouloir. Parce que le petit enfant, au fond de moi, il se disait, mais... Avec tout l'amour que t'as ressenti, t'es plus là, quoi, t'es parti. Et je me rappellerai longtemps de ce moment où je rentre, si tu veux, et elle était pas couchée, donc je rentre de Poitiers en train, et il devait être 20h30. Et je la prends, et elle me sourit, tu vois. Et là, mais je suis allé dans sa chambre, et attends, c'est encore un peu dur. Je suis allé dans sa chambre, et j'ai pleuré. Mais j'ai pleuré, mais tellement, tellement fort, si tu veux, en la serrant contre moi. C'était parce qu'elle m'en voulait pas. Parce que malgré tout, si tu veux, il y avait tout cet amour, quoi.
Et c'est là la petite plaque de l'amour inconditionnel. Moi, c'est un des trucs qui m'a le plus aidé dans ma parentalité, c'était de comprendre justement que l'enfant aimait son parent inconditionnellement. Et inconditionnellement, ça veut aussi dire si le parent, ben, du coup, il est absent, si le parent est violent. Et quand on comprend ça, je trouve que déjà, ça nous donne des cartes en main pour avancer vers son rôle avec moins de violence, justement, qui sont assez importantes, parce que du coup, on écarte du coup tous ces schémas où on nous fait croire que l'enfant nous manipule, que l'enfant naît mauvais et qu'ensuite c'est à nous de lui apprendre à devenir bon, qu'il y a un rapport de force entre le parent et l'enfant. Et vraiment, je trouve que c'est un des trucs que j'ai mis dans mon avant-propos, dans mon livre justement, parce que pour moi, c'est une phrase qui m'a marquée, c'est l'amour, l'enfant nous aime inconditionnellement. Et je me suis dit, si moi, elle m'a marquée cette phrase, il faut que je la repartage à nouveau, parce que je trouve que ça fait type dans la tête d'un parent de se dire... L'enfant, en fait, il va pas nous faire porter le poids de nos erreurs. L'enfant, il nous pardonne tout. Et bon, jusqu'à un certain âge. Et puis, c'est à nous aussi de savoir s'excuser quand on a un abus de parole. J'entends que des fois, on puisse se sentir complètement dépassé. Et puis, on fait aussi avec le bagage qu'on a. Et ça m'amène jusqu'à ma question d'après, justement. C'est est-ce que on s'intéresse à ces thématiques-là, qui sont des thématiques où on essaie de remettre en question, en fait, une éducation qui est un petit peu, bah, du coup, basique, parce que c'est un peu celle qui est entrée dans les mœurs ces 50 dernières années, on va dire. Est-ce qu'on la remet plus facilement en question quand on n'est pas satisfait de l'éducation que soi-même on a reçue ?
Alors, ouais, ça, je sais pas. Parce que, si tu veux... Alors, je voulais juste revenir sur la phrase que tu disais avant sur le sujet de l'amour inconditionnel. Il y a une phrase qui a marqué quand j'ai commencé à lire dans mon tout premier livre de Maria Montessori, c'est « L'enfant n'est qu'amour ». Et ça, c'est un mantra, si tu veux, dans ma tête. « L'enfant n'est qu'amour, l'enfant n'est qu'amour, l'enfant n'est qu'amour ». C'est ce qui m'a beaucoup aidé. Pour revenir à ta dernière question, moi, je sais pas si ça aide. Je peux parler que de ce que moi, j'ai vécu. Moi, j'ai connu les violences éducatives ordinaires, j'ai connu le martinet. J'ai connu, pour le coup, comme on avait coupé les lattes avec ma sœur du martinet, on a vu droit au coup de bâton du martinet. J'ai connu à l'école les gifles, j'ai connu le fait qu'on te tire par les petits cheveux sur les tempes, là. J'ai connu la règle, où on te frappe le doigt avec la règle. J'ai connu les violences éducatives ordinaires aussi très, très psychologiques, la culpabilisation, l'humiliation, la soumission, l'insulte. Voilà. Maintenant, est-ce que ça voulait dire que je me disais que mes parents m'aiment pas? Non. Et ça, c'est une leçon que j'ai prise justement en m'intéressant à la parentalité, c'est qu'il n'y a pas de... Il faut vraiment se dire qu'un enfant, c'est pas parce qu'on ne lui dit pas qu'on l'aime qu'il ne sent pas notre amour. Il va être capable de voir des choses. Après, il ne va pas forcément exprimer ce que lui attend. Ça, je l'ai bien compris, tu vois. L'exemple avec des enfants proches de moi qui étaient très surpris de me voir dire à ma fille... que je l'aime presque tous les jours, si tu veux. Et ils m'ont dit, mais nous, papa, il ne nous dit pas ça. Et je leur ai posé la question, d'accord, mais est-ce que vous doutez de son amour ? Ah non, pas du tout. D'accord, bah parce qu'il fait ci, parce qu'il fait ça, parce qu'il voit d'autres signes. Maintenant, est-ce que c'est plus facile de se remettre ? Je pense que là, ce qu'on peut se dire, c'est que c'est plus facile de rejeter cette éducation-là, en bloc, je dirais, qu'en effet, quand tu as eu si tu n'avais été élevé que dans des 12 violences, je peux comprendre qu'en effet, tu, en te comparant aux autres, tu dises « Ouais, non, mais moi, ça va, quoi. Tu vois, ce que j'ai eu, ça va, donc j'ai pas trop de choses à remettre en question. » Mais ça peut être aussi très difficile, quand tu as eu des violences extrêmement fortes, de le reconnaître. Parce que ça veut dire qu'à l'âge adulte, tu te reconnais en tant que victime. Tu te reconnais à chaque fois que tu te reconnais en tant que victime de quelque chose, que ce soit des violences éducatives ordinaires ou des violences conjugales ou autres, même professionnelles, il y a ce sentiment de honte. J'ai laissé faire aussi, tu vois, à un moment.
Le terme de victime, il est un peu trop entaché, un peu trop synonyme dans l'inconscient des gens de faiblesse, et c'est fort dommage. Il y a vraiment quelque chose à réajuster là-dessus, et complètement, comme tu as raison, hein, que ce soit dans le rapport avec ses parents, mais aussi dans un rapport conjugal ou même amical. Hein, il y a beaucoup d'histoires aussi assez terribles d'amis... un peu poison, et c'est vrai que se reconnaître en tant que victime, ça veut tout de suite dire qu'on a été facile à berner, ou facile à manipuler, ou trop docile, ou ce genre de choses, alors qu'il y a beaucoup de choses, mais bon, là, ça serait l'objet d'un épisode complet, mais en tout cas, je trouve que c'est intéressant aujourd'hui de démocratiser ce terme de victime pour comprendre que c'est pas parce que on a été victime de quelque chose que du coup non seulement c'est pas réparable, parce que les choses peuvent se réparer, on peut même excuser des choses très longtemps après à nos parents ou à qui que ce soit. Et du coup voilà, toutes les communications qui se passent sur les réseaux, grâce à ton podcast et tout ce qui se passe médiatiquement en ce moment, ça existe aussi pour que les gens sortent de l'ombre et s'identifient à des gens forts. On peut être une victime et dire, regardez, voilà, je ne suis pas la victime que vous pouvez imaginer. Et du coup, vous n'ayez pas honte de dire que vous-même, vous êtes victime, parce que ça sera peut-être plus facile de s'identifier à une victime.
Mais si tu veux, j'ai envie de te dire, c'est toujours le même souci de sémantique et de paradigme social. Il n'y a pas longtemps, là, on m'a fait un commentaire avec lequel je suis totalement d'accord. Parce qu'en fait, dans un post sur les VO, on prend une situation où une personne ou une jeune femme a été agressée. Et on m'a repris en disant « Oui, c'est dommage parce que la phrase vous avez mis « J'ai été agressé ». Non, c'est pas « J'ai été agressé », c'est « Un homme m'a agressé ».
Ah oui.
Une personne m'a agressé. Tu vois ce que je veux dire ? C'est qu'à un moment, on oublie que la violence, elle vient d'une personne qui commet un acte violent. La victime, elle a rien demandé, elle a rien choisi. Et pourtant, c'est elle qu'on va mettre au centre. Limite à lui faire s'en sentir coupable. Est-ce qu'elle l'a mérité ou pas ? Et ça, c'est super intéressant, si tu veux, comme, tu vois, pour prendre le cas le plus grave, je vais reprendre cet exemple. La seule cause d'un viol, c'est pas tes vêtements. C'est pas ton attitude. C'est le violeur. Et si tu veux, quand tu transposes ça sur toutes les violences, c'est pas j'ai été victime, c'est pas j'ai été harcelé moralement, non. Là, je parle au travail. C'est mon responsable hiérarchique a fait preuve de violence envers moi, tu vois. Et t'as vu, c'est une vraie gymnastique hein, qu'il faut changer. Après, bon, comme tu l'as dit, c'est pas le sujet, donc je vais pas m'étendre peut-être plus que ça dessus, mais tu vois, déjà, rien que la façon dont on en parle, ça montre le paradigme social qu'on peut avoir dessus, quoi.
Ouais, mais complètement. C'est important à l'aube où on nous pousse à changer toute notre façon de communiquer et le poids des mots. Et des fois, c'est dans un inconscient tellement profond qu'on ne voit même pas où est le problème. Et je trouve que c'est important de noter des choses, même si des fois, ça fait un peu mal, parce que ça nous pousse à nous remettre énormément en question sur où, pour rester dans le thème, l'éducation qu'on a reçue ou celle qu'on a déjà donnée, celle qu'on est en train de donner. Et ça peut violenter la personne qui reçoit l'information. Après, à nous, communicants, de trouver la bonne forme pour amener l'information d'une façon bienveillante, sans jugement. Forcément, il y aura toujours de la culpabilité, je pense, chez certaines personnes, et ça s'entend aussi.
Tu l'as toujours.
Tu l'as des deux côtés, en fait. Tu l'as quand tu essayes de faire réagir quelqu'un et quand tu es la personne à qui on confronte le truc. Justement, j'aime bien parce que ça m'amène à chaque fois vers une nouvelle thématique que je voulais aborder avec toi sur ce sentiment de culpabilité que certains peuvent ressentir face à des propos, des combats que toi tu mènes. Et aujourd'hui, du coup, tu officies beaucoup sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Ton compte s'est quand même vraiment développé. Ton podcast a pris une belle notoriété, une belle crédibilité et forcément, le succès, l'audience s'accompagne aussi parfois de détracteurs et je voulais savoir si toi, tu avais été confronté à des réactions qui avaient pu un peu te bousculer et lesquelles, si tu veux nous en parler.
Alors, j'ai pas eu de gros détracteurs, clairement. Alors, déjà, il faut bien comprendre que j'avais annoncé la couleur. Moi, si tu veux, j'ai deux types de personnes qui vont venir sur Instagram. Ceux qui ont écouté le podcast, enfin, celles et ceux qui ont écouté le podcast, plutôt. On va essayer d'être inclusif un petit peu. Et ceux qui viennent, en fait, et qui n'ont rien écouté. C'est aussi pour ça que je mets très peu de posts sur Instagram, parce que le contenu, c'est vraiment le podcast. Et si tu veux, généralement, ceux qui m'ont écouté, ils ont entendu le départ. Au départ, tu vois, dès le départ, dans le tout premier épisode, je dis, notamment aux pères qui écoutent, aux hommes qui écoutent, qu'à un moment, il y a des choses qui vont les titiller, qui vont les gratouiller, ils vont pas être à l'aise. Et ça veut dire que c'est là qu'il faut aller creuser. Mais ça marche avec tout, en fait. Ça marche avec l'éducation, ça marche avec le racisme, ça marche avec le sexisme, ça marche avec plein de choses. Moi, quand on me reprend parce que je suis un homme blanc et que je fais des blagues de merde ou que j'ai une parole maladroite envers qui peuvent offenser une personne racisée dans sa dignité, j'entends. Hein. Heureusement qu'on me reprend. Oui, ça me fait pas plaisir qu'on me reprenne. Mais heureusement qu'on me reprend, si tu veux. Et donc déjà, il y a vraiment cette catégorie-là de gens qui savent dans quoi ils mettent les pieds. Ça, c'était un truc que vraiment je voulais que ça soit clair. vous savez où vous mettez les pieds, il va y avoir de la remise en question au menu. Donc après, si vous n'en voulez pas, vous pouvez aller ailleurs. J'ai eu, dans la... quand je suis vraiment dans mes premiers posts, j'ai eu en effet des détracteurs aussi en mode « Non mais c'est quoi cet homme qui vient nous parler ?» Ben bah oui, en effet, t'arrives, t'as des choses à dire, t'es pas nouveau. Après, je pense que ce qu'il faut faire, c'est aussi faire preuve d'empathie, comprendre que les gens, ils ont le droit de se sentir interpellés, interloqués et choqués.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Que sur Instagram, il y a quand même aussi beaucoup de gens qui parlent de parentalité et très sincèrement, il y a à boire et à manger. J'en profite, hein, je vais mettre les pieds dans le plat comme j'ai l'habitude de le faire. Il y a à boire et à manger et puis il y a des profils de parents parfaits qui sont extrêmement culpabilisants. Il y a des profils d'espèces de coach qui tirent profit de détresse parentale et de situations complexes chez les gens et ça, c'est pas honnête. C'est mon métier hein, d'accompagner l'humain, donc je vais dire une phrase très claire sur ce sujet-là, parce que c'est quelque chose quand même qui me tarabuste, parce que aussi ce sont ces personnes-là qui sont venues être mes détracteurs, si tu veux, qui sont venues me chercher notamment en privé, pas souvent en commentaire, hein, en privé ça se passe. Et clairement, si aujourd'hui sur Instagram, ou même dans votre vie, un coach, une personne qui vous accompagne, son but ultime, ça doit être
que vous vous passiez de lui ou elle.
Si c'est autre chose que ça, s'il y a un lien de dépendance qui se crée, stop, c'est une arnaque. Voilà, ça c'est clair, net et défini. Désolé pour ceux que ça pourra froisser, mais c'est comme ça. Et si tu, voilà, tu vois ce que je viens de faire, par exemple, c'est un petit peu ma façon d'être. C'est désolé si ça peut vous froisser. Je peux comprendre que ça froisse. Souvent, on vient m'interpeller sur le fait de « oui, mais quand même, est-ce que tu ne penses pas que c'est culpabilisant quand tu dis que l'étiquette, bah, être timide, c'est une étiquette, tatitata, moi je le dis à mon fils, à ma fille. » Mais très bien, super. Enfin, on a le droit d'avoir des opinions différentes, il n'y a pas de souci. On peut. Maintenant, on peut aussi argumenter, débattre. Moi, je m'appuie sur des sources. J'essaye au maximum de m'appuyer sur des sources fiables, scientifiques, prouvées. Et quand ce n'est pas le cas, je précise bien que ça n'est que mon opinion. Donc, je pense que c'est là aussi où, pour ça, je ne suis pas beaucoup attaqué. Après, là où j'étais beaucoup plus attaqué, par contre, ça, c'est sur le côté, puisque mon podcast, c'est un podcast de parentalité éclairée, mais aussi, c'est aussi un podcast féministe engagé. Alors là, clairement, des masculinistes qui sont venus me gonfler en commentaire et en MP, j'en ai eu, ouais. J'en ai eu. À date, si tu veux, j'ai dû en avoir, pas loin de 200-250 qui sont venus. Mais ils font des raids, en fait. Ils font des raids, ils arrivent par vague de 30, de 40 dans tes commentaires et dans tes messages privés. Donc, bah, tu bloques et puis voilà, tu passes à autre chose parce que t'es aussi là pour qu'ils n'embêtent pas ta communauté. Moi, c'est ça qui m'intéresse, tu vois. Moi, ils peuvent y aller. J'ai le dos dur, comme on dit, si tu veux. Donc, j'étais confronté à ça. Après, si tu veux, dans mon parcours pro, donc, pour refaire l'histoire, j'ai été manager avec d'énormes guillemets aussi. Enfin, j'ai accompagné l'humain depuis maintenant plus de 15 ans. J'ai commencé très tôt, que ce soit dans ma vie professionnelle, dans ma vie sportive, dans ma vie personnelle. Et c'est quelque chose qui me passionne. Et on m'a toujours reproché de dire des choses qui dérangent. Tu vois, parce que pour moi, il faut aller sur les sujets qui dérangent, parce que c'est là qu'il faut gratter. Tu vois, c'est là qu'il y a des sujets à gratter. Aller sur les choses qui nous dérangent pas, ben, c'est pas comme ça qu'on évolue, si tu veux. C'est quand il y a quelque chose qui nous gratouille qu'il faut aller voir ce que c'est. Après, on est prêt ou on n'est pas prêt, hein, faut pas se forcer non plus, attention. Hein. On est prêt ou on n'est pas prêt, puis c'est pas forcément un chemin à faire tout seul. On peut être accompagné par une personne compétente sur le sujet. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Mais non, après, les détracteurs ou les détractrices hein, sur Instagram, j'en ai pas eu... Enfin, il n'y a rien, si tu veux, qui m'a choqué. Il y a juste eu ces vagues de masculinistes qui sont un peu rudes. Et voilà, après, j'ai pas eu de choses traumatisantes, quoi, tu vois.
Et du coup, pour parler quand même de choses positives, tu as eu aussi de très bons retours. Il y en a un en particulier ou des hein, qui t'ont bouleversé ou apporté Oui, si, hein.
Ah ouais, c'est ça, des bons retours, j'en ai eu. Heureusement, j'en ai eu plein, hein, c'est ce qui me porte, puisque je tiens à souligner qu'il ne faut pas oublier une chose. C'est que ce genre de travail, c'est un travail gratuit. C'est un travail gratuit, militant et engagé. Alors, travail gratuit, concrètement, je veux pas une médaille pour ça, parce que du travail gratuit, il y a plein de gens qui le font sur Terre en permanence et qui n'ont aucune reconnaissance pour ça et qui, dans leur très grande majorité, s'appellent des mamans. C'est important de le dire aussi. Ouais, on balance un peu là. Et non, mais c'est important de le dire. Donc, je veux pas de médaille pour ça, mais c'est un travail gratuit et pour le coup, c'est un petit peu l'essence, tu vois, c'est un petit peu ce qui donne de l'énergie. C'est ces commentaires-là. J'adore les gens, enfin, tu vois, quand les gens viennent te dire, ah, mais j'arrivais pas à comprendre et avec les liens que t'as fait, j'ai compris. C'est cool. J'adore les gens qui disent, putain, ça fait du bien d'entendre un mec qui parle de ça, machin. J'adore voir des papas qui aiment me voir et qui me disent, mais là, que en MP, hein, ça se passe. Pareil, tu vois, c'est l'intimité du mâle qui doit pas montrer sa vulnérabilité. J'adore voir des papas qui viennent et qui me disent, ouais, mais moi, je pense comme ça aussi, tatitata. C'est d'ailleurs ce qui a amené l'épisode avec Emmanuel, père en congé parental, qui est un épisode que j'ai adoré faire aussi. Sur le dossier allaitement, j'ai eu des retours de plusieurs mamans qui te disent, merci pour ton dossier parce que j'étais à deux doigts de lâcher mon allaitement et c'est bon, je suis reparti. Enfin, quand t'entends des trucs comme ça, t'as envie de dire, mais pff, ouais, ça fait du bien, ça fait grave du bien, quoi. C'est quand tu sais que t'apportes aux gens comme ça aide. Et surtout, l'important, encore une fois, c'est pas moi, c'est pas toi, c'est pas eux, c'est la cause. C'est l'avenir de nos enfants, c'est la société qu'on veut préparer demain. Et c'est ça qui porte l'énergie, quoi.
Et comment tu te sens justement en parlant de société? Parce que tu le disais au début, toutes ces préoccupations, surtout autour du féminisme et tout ça, tu ne les aurais pas eues a priori si tu avais été papa d'un petit garçon, ou en tout cas à moindre mesure, ou peut-être plus tard. Et comment toi, tu vis un petit peu bah, tout ce qui se passe, même si on ne va pas devenir un podcast politique, mais comment tu vis un petit peu c'est clairement qu'on se fout ouvertement de notre figure, en fait. Est-ce que tu gardes un bon espoir sur l'évolution ou tu as l'impression qu'on fait deux pas en avant, quatre pas en arrière qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça, ce que tu vas offrir, enfin toi, nous, ce qu'on va offrir comme monde demain à nos petites filles pour parler d'elles, puisque je parle de préoccupations féministes, sexistes. Qu'est-ce que tu ressens à propos de tout ça?
Alors, déjà, je tiens à préciser que le féminisme et le sexisme, c'est aussi une affaire de garçons, dans le sens où, sans faire de ouin-ouin, les hommes souffrent du sexisme, du fait de devoir le produire et du fait des stéréotypes qu'ils doivent
Not
assumer dans leur masse.
all men,
Voilà. Non, non, c'est pas ça, hein, c'est clairement.
not
Mais c'est juste que les hommes souffrent aussi de ça et beaucoup ne s'en rendent pas compte, hein, clairement. Mais de devoir être dans cette masculinité toxique, c'est complexe aussi. Et clairement, ça a aussi rien à voir avec le fait d'avoir peur de se faire agresser en permanence et de se faire agresser en permanence. Hein, faut aussi remettre les choses dans un certain contexte d'importance. Maintenant, qu'est-ce que je constate? Alors, moi, le constat que je fais, donc nous sommes en 2020, nous sommes dans la troisième année passée de la présidence Macron, qui a annoncé que l'égalité homme-femme, c'était son sujet du quinquennat. Voilà, au moment où nous enregistrons cet épisode, nous
Il
venons
vient de
d'avoir un
sortir d'une
remaniement.
conversation d'homme à homme avec
Voilà. Donc
donc
nous sommes le 15 juillet. Nous sommes le 15 juillet, cet épisode paraîtra bien plus tard, mais nous sommes le 15 juillet. Pour remettre le contexte, le président Macron a fait un remaniement gouvernemental, donc ministériel. Il a nommé Jean Castex Premier ministre, et à eux deux, on désignait Gérald Darmanin et Éric du à l'intérieur, pardon, et Éric Dupond-Moretti à la justice. Pour resituer, Gérald Darmanin est une personne qui est à date accusée de viol. Je dis bien accusée, pas coupable, pas voilà. Il y a une plainte contre lui pour viol. Et on va passer le fait que ce soit un partisan de la Manif pour tous qui a milité et manifesté contre le mariage homosexuel. Coucou Gérald, si tu nous écoutes. Et si tu es encore en poste, ce que je n'espère pas. Donc voilà. Et imaginons même juste qu'on oublie cette plainte pour viol. Ses avocats ont reconnu les faits. C'est-à-dire que les faits, ce sont les suivants. Une personne a sollicité Gérald Darmanin pour des services administratifs, c'est-à-dire pour avoir un piston ou enfin voilà, être aidé administrativement. Et Gérald Darmanin a exigé des faveurs sexuelles en échange. D'accord ? Les avocats ne nient absolument pas les faits. Ils disent juste que c'est pas un viol. Admettons, c'est pas un viol. Très bien, donc ça veut juste dire que notre président, donc hier on était le 14 juillet, et le Premier ministre aussi, hein, sur l'antenne de Jean-Jacques Bourdin, ont annoncé tous les deux la même formulation, qu'ils ont discuté avec lui d'homme à homme. Hein. Alors je vais le redire.
Je peux lui dire ? Parce qu'il a rajouté ça derrière.
Voilà, d'homme à homme. Moi, j'ai envie de dire, autour d'un verre entre couilles, hein, tranquille. Emmanuel, si tu nous écoutes. Voilà, c'est... Et en leur âme et conscience, après cette discussion d'homme à homme, ils ont décidé que c'est bon, ils pouvaient le nommer. Donc, c'est-à-dire qu'en leur âme et conscience, le fait que leur ministre de l'Intérieur ait exigé des faveurs sexuelles contre des services administratifs, tu vois, on oublie viol, hein. Mais ça ne pose pas de problème. Et c'est problématique. À côté de ça, on a Éric Dupond-Moretti. Éric Dupond-Moretti qui est un grand avocat, ça on peut pas lui enlever, et qui a défendu mais des dossiers incroyables. Il a défendu notamment, il a été le premier avocat des époux Balkany, hein, bien connu pour leur générosité et leur compte en banque et leur honnêteté, voilà. Il a défendu quelqu'un comme Georges Tron en expliquant que notamment les féministes étaient hystériques, qu'il fallait arrêter de se considérer comme des victimes, que c'était de la drague, que machin. Et Éric Dupond-Moretti qui milite, pour info, sur le fait de supprimer l'infraction pour outrage sexiste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu es dans la rue...
Parce que les femmes aiment se faire siffler.
Voilà, exactement. Et donc ça, il faut que ce soit... Aujourd'hui, ça, c'est quelque chose qui est interdit. Ça s'appelle un outrage sexiste et vous pouvez porter plainte pour ça. Et Éric Dupond-Moretti veut arrêter ça, il veut l'abolir. Parce que voilà, on faut pas déconner, il faut qu'on puisse draguer comme on veut quand on est un mec. Donc... Voilà, bon, ça c'est pour le contexte dans lequel on réalise cet épisode et dans lequel tu poses la question. Quand je vois ça, je me dis, ouais, c'est chaud. C'est chaud, je te cache pas que j'ai eu beaucoup de colère. Je suis allé manifester il y a quelques jours avec nous toutes sur ce sujet-là parce que, encore une fois, la question, c'est même pas de savoir si Darmanin est coupable ou pas. On s'en fout à la rigueur. Le sujet, c'est politiquement, quel message on passe ?
Si je peux me permettre, politiquement... Quand on est capable d'amener donc, dans un débat politique, en tant que président, la phrase « on a discuté d'homme à homme », si c'est un discours qui est préécrit, donc intellectualisé, tout ça, c'est qu'en gros, on nourrit complètement à la figure et on se moque de nous. Si, la phrase vient spontanément, on a quand même une façon très claire de voir ce qui se passe dans la tête de ce cher Emmanuel Macron. Et aujourd'hui, on est quand même... dans une incompréhension totale des combats qui sont en train de se mener et je trouve ça dangereux et très inquiétant de voir que les personnes aujourd'hui qui gouvernent notre pays et sur lesquelles on est obligé de compter en fait pour des prises de décision, ce sont des gens qui spontanément peuvent dire on a une discussion d'homme à homme au cœur des préoccupations sexistes et quand même d'une affaire de viol, quand bien même tu le dis coupable, non coupable, le problème c'est qu'en fait aujourd'hui, ça, dans le milieu de l'entreprise, ça serait juste interdit, pas permis. À un moment donné, ils se battaient quand même pour pouvoir employer les gens avec un casier judiciaire obligatoire. A priori, c'est une obligation qui s'appliquera jamais à nos politiques. Et ça, je ne comprends pas. Mais bon, comme tu dis, on ne va pas non plus partir sur, sur un sujet trop politique.
Pour répondre quand même entièrement à ta question sur l'avenir, je tiens juste à rappeler une chose, c'est que nous sommes pour l'instant sous une présidence. Cette présidence, un jour, elle changera. Alors concrètement, je ne dirais pas pour quel courant politique j'ai envie de voter ou pas, parce que pour l'instant, il n'y en a pas. Mais en tout cas, je peux vous dire que ce n'est pas La République En Marche. La République En Marche, c'est du marketing. Je vais juste rappeler une chose. Et là, je vais parler de Marlène Schiappa, qui a lâchement abandonné les féministes aussi, hein, tant qu'on y est. Marlène Schiappa, qui, lorsque nous l'avons sollicité sur les réseaux et que ça a fait un peu du bruit quand on a été reçu par Adrien Taquet avec les papas concernant le congé paternité, ah là, il y a eu du bruit, il y a eu un live en direct sur Instagram. Elle a pris la parole devant l'Assemblée nationale en disant « Le gouvernement d'Edouard Philippe sera le gouvernement du prolongement du congé paternité. » Oups, Marlène ! Ben alors, Marlène ? Ben non, ça s'est pas fait. Et en fait, on est dans un gouvernement d'effet d'annonce, dans un gouvernement très marketing. Hein. Macron respecte sa promesse de Startup Nation avec quelque chose de très marketing. Mais un jour, ce gouvernement va changer. Ce président va partir. Et là, je suis désolé de le dire aussi, ça sera de la responsabilité du peuple de choisir, en son âme et conscience, ce qu'il veut ou pas. et de regarder ce qui se passe. Et il ne faudra pas oublier tous ces moments-là. Il ne faudra pas oublier le fait d'insulter, de cracher au visage des victimes en permanence, sans aucune honte. Il ne faudra pas oublier aussi cette crise du coronavirus où on a applaudi des soignants comme si c'est ça qui allait améliorer leurs conditions de travail. Et une fois qu'on en est un petit peu sorti, le cauchemar recommence. Voilà, donc n'oubliez pas.
La crise des gilets jaunes et on en passe.
Exactement.
Pour revenir complètement sur le sujet du podcast, je voulais savoir, toi, si tu avais décidé de prendre un virage différent pour une saison 2, est-ce qu'une saison 2 est prévue ? Qu'est-ce que tu voudrais améliorer, changer, rajouter dans ce nouveau format qui, j'espère, arrivera vite ?
Alors, une saison 2 est prévue, bien sûr. Une saison 2 est prévue avec beaucoup de plaisir. C'est juste, alors pourquoi est-ce qu'il y a des saisons ? Pourquoi est-ce que je fais des saisons déjà ? Parce qu'à un moment, en fait, il faut faire une pause. Faut faire un break. Il faut prendre le temps de respirer. Il faut prendre le temps de sortir, de prendre du recul, de prendre de la hauteur sur ce qu'on fait. Et ça, ça vaut pour le podcast comme pour tous les travaux. C'est quelque chose que je conseille toujours quand j'accompagne des gens dans leur vie professionnelle et personnelle. C'est faire un break. Prends un temps de pause. Regarde ce qui se passe. Donc voilà, faire un petit break, prendre un temps de pause. Alors, cette saison 1, déjà, elle a été tellement riche en rebondissements. Si tu veux. Moi, à la base, je partais, j'avais fait toute une série de petits épisodes avec des thématiques, et puis je me suis dit, bon, ben voilà, Cédric Rostin, il va prendre le micro, et puis on va l'écouter parler, et puis si ça plaît, tant mieux, si ça plaît pas, tant pis. J'avais pas prévu de faire d'interview, en fait, tu vois. Et puis ça a commencé avec Marion Quercq, chose incroyable, puis Noémie Delattre, enfin, des personnes que j'adore, si tu veux, qui m'apporte tellement, et puis voilà, ensuite plein d'interviews, je vais pas refaire toute la saison, je vous invite à l'écouter quand même, et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. et si tu veux, ça a pris une tournure à laquelle je m'attendais pas, et en fait, sur la saison 1, je me suis vraiment laissé porter. Maintenant, dans la saison 2, j'aimerais remettre ces moments, tu vois, où je suis tout seul au micro, où je vais parler de choses, donc j'ai déjà mon premier épisode de la saison 2 qui est prévu, qui est prêt, en tout cas en script. J'aime beaucoup aussi tenter des trucs. J'aime la liberté que j'ai. Je suis un podcast qui n'est pas financé. Je ne gagne pas d'argent dessus, je gagne zéro dessus. C'est peut-être quelque chose qui évoluera juste pour payer mes frais, parce que ça engage quand même des frais que je ne cache pas. Hein. Concrètement, le podcast, entre l'investissement matériel et le coût des plateformes, c'est environ 60€ par mois. Donc ça, voilà. Peut-être qu'un jour il y aura de la monétisation dedans. Juste pour rembourser mes frais, je ne sais pas, je verrai, pour l'instant je ne suis pas là, mais en tout cas le fait de ne pas être financé, de ne pas être sponsorisé, ça m'accorde une très grande liberté, et c'est quelque chose à laquelle je tiens, puisque ça reste un podcast militant engagé, et donc j'aime bien cette liberté. En fait, j'aime bien le fait de me dire là c'est une interview, là c'est pas une interview, bah tant pis, on s'en fout, tant qu'on sait de quoi on parle, on aime bien. Ce que j'ai noté, ce que je veux revoir en tout cas, c'est la parole des pères. Et la parole des pères sous un angle que j'ai repris, notamment avec Samuel, la parole des pères en brisant ce tabou des hommes qui n'ont pas le droit de parler de sentiments et d'intimité. Tu vois, je veux qu'on ait des hommes qui parlent de sentiments, qui soient émus au micro, je veux qu'on ait des hommes qui parlent de ce qu'ils ont ressenti. C'est aussi ce qui peut aider à en libérer d'autres, c'est important. Ça, j'en veux. Ce que je veux aussi, c'est continuer à avoir des gens ultra bienveillants dans la parentalité éclairée. On a fait une série de focus avec Virginie de Bougry-Bouillon. Je trouve ça génial. C'est super d'apporter, tu vois, la connaissance accessible comme ça rapidement. J'aime beaucoup aussi les témoignages des gens écoutés. Ce que j'aimerais aussi beaucoup travailler, c'est l'aspect aussi de parentalité et de sexisme racisé aussi. Parce que le féminisme actuel est un féminisme intersectionnel, c'est-à-dire qu'il prend en compte les différentes strates de problématiques rencontrées, donc ça c'est un sujet qui me tient à cœur aussi. Voilà, en fait, si tu veux, j'ai pas vraiment de plan de la saison 2, parce que j'aime bien pas avoir de plan.
Est-ce que tu as un invité que tu souhaites à tout prix ? C'est une bouteille à la mer que tu peux jeter maintenant.
J'ai différentes personnes en fait qui sont déjà prévues un petit peu, et pour lesquelles j'ai beaucoup de passion pour le travail. Je pense à Soline Bourde-Vervessière, dont j'adore le travail, et j'espère qu'elle sera disponible pour cette saison 2. Voilà, et après il y a plein d'autres gens. Je nourris l'espoir d'avoir Catherine Guéguin, je nourris l'espoir d'avoir plein de gens, si tu veux, je nourris l'espoir de plein de choses. Mais voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête en fait. Je continue, je vois comment ça se passe, ça match, j'ai une très très grande liberté à laquelle je tiens beaucoup, Et ça, ça marche bien. Et après, ce que je me dis aussi, c'est peut-être faire un de ces quatre, un format genre discussion, mais à Gavé, tu vois. Ah oui, je suis du Sud-Ouest, donc Gavé, ça marche. Tu vois, genre, je sais pas, genre le 7-8 novembre, il paraît qu'il y a un salon du livre à Brive avec des gens exceptionnels qui seront là-bas. Ben pourquoi pas, tu vois, un podcast spécial, reportage, mission avec tous ces gens exceptionnels qui répondraient à la même question. Enfin, tu vois, je sais pas. Il y a des petits concepts comme ça qui font leur apparition. Mais je me dis que c'est possible aussi, tu vois.
Ah, j'adore les tables rondes, bon, même si c'est debout au milieu d'un festival. Mais j'aime bien, ça dégage des choses super, les phénomènes de groupe, les conversations de groupe.
Ouais, il y a une ambiance intéressante, ouais.
Et je voulais savoir, parce que du coup, je ne sais pas si tu veux qu'on arrête dans pas trop longtemps, mais j'avais envie quand même de partir sur des trucs un peu fun, et je voulais savoir si tu avais des anecdotes rigolotes à raconter sur cette première saison, sur des épisodes interrompus, des boutades qu'on t'a demandé de couper, un petit secret un peu rigolo à nous annoncer, ou un secret que tu pourrais dévoiler pour ce dernier épisode.
Alors, qu'est-ce que je pourrais te dire ? Il n'y a pas de secret, parce que...
Tu vas pas devenir papa pour la deuxième fois cette année, là.
Non, mais on y travaille. On y travaille avec assiduité. Après, tu sais ce que c'est quand t'es indépendant ou indépendante. Faire un enfant, ça a un coût financier, puisque tu ne touches, en tout cas pour ma femme qui est libérale, elle ne touche rien. Et au contraire, elle doit faire un crédit de plusieurs dizaines de milliers d'euros pour assurer la pérennité de son activité. Voilà, pour rien vous cacher, donc c'est important de savoir que, et c'est, vu que tu soulèves le sujet, je vais quand même dire cette phrase, c'est important de savoir que c'est aussi un problème de sexisme. Un homme qui est indépendant ne va pas prendre forcément de congé maternité. Enfin, il n'en a pas l'obligation, si tu veux, il va pouvoir adapter son activité. Moi, ma femme qui est dentiste spécialisée en phrénotomie, aujourd'hui, si elle est enceinte, son congé mat, elle est obligée de le prendre pour sa santé et la santé du bébé, mais il n'y a rien, elle va juste rien toucher. Et ça, c'est une vraie injustice sociale envers les femmes indépendantes. Voilà, c'est important de le souligner. Donc oui, il y a un projet BB2 en route, mais va savoir pour quand. Ensuite, des secrets, non, je sais pas, il y a eu plein de trucs. Moi, ce que j'adore, en fait, tu vois, c'est parce que vous avez la... Quand on écoute, les auditeuristes ont la version retravaillée, coupée, montée. On a l'impression que tout est hyper fluide, machin. Non, alors, ça se passe pas exactement comme ça, il y a des coupures. Je me rappelle très bien de la discussion avec Virginie où il y a sa fille qui a son tout petit bébé qui arrive pour une tétée. Alors voilà, c'est retravaillé pour qu'il y ait que les bruits de bouche, mais on en parlait un peu avant. C'est vrai que tu m'entends pas faire les oh mais c'est trop mignon Virginie, c'est trop mignon comme ma tête là, oh là là, c'est voilà, on n'entend pas dire tout ça. Pourtant ça s'est bien passé.
Cédric, on sait qu'en fait t'as dit ah putain il est trop relou ce bébé et tout.
Encore un bébé. Et puis pourquoi tu l'allaites aussi, putain, tu peux pas prendre des biberons comme tout le monde. Ouais, franchement. Et c'est totalement pour rigoler. Hein,
c'est vrai qu'il faut préciser ce genre de choses.
On s'en fout, allez. Mais Dieu, avec Noémie Delattre, ouais, un ou deux petits débordements, parce qu'elle part loin, Noémie, dans les propos, que j'ai en effet dû retravailler, on va dire. Et voilà, après, je sais pas, non. En fait, il n'y a pas vraiment de choses qui sont... Je coupe très très peu de choses dans le podcast. Je coupe beaucoup des bruits de bouche, tu vois, des trucs comme ça. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas toute la partie... ouais, exactement, où tu sais, les...
de ASMR.
Voilà, on va faire un épisode ASMR féministe et engagé. Pour revenir à notre sérieux, il n'y a pas beaucoup de choses. Par contre, il y a tout ce qui est off, c'est-à-dire vraiment le moment où je n'enregistre pas. Et c'est vrai que là, il y a des fois, je sais plus avec qui c'était, avec Samuel notamment, genre on a refait un épisode, tu vois. On a enregistré l'épisode, puis on a reparlé genre pendant 45 minutes après, tu vois, entre nous, et c'était chouette, et on s'était dit, merde, ben, c'est cool qu'on ait pas enregistré ça aussi. Mais voilà, donc, il y a, en tout cas, ce que je garde à l'esprit, c'est de très très bons moments. J'ai aussi un très bon moment avec Elodie Crépel, parce que, donc, il y a eu ce hors-série sur l'hypersensibilité, où j'ai fait le pari. C'est le seul épisode, alors ça, c'est le seul épisode de la saison, où je ne maîtrise pas le sujet avant d'en parler. C'est-à-dire que j'ai pris le pari de découvrir un sujet en direct et de me déconstruire en direct. Et en effet, c'est vrai que j'ai dit des belles conneries pour le coup. Et, mais même ça, si tu veux, c'était chouette parce que faut aussi montrer le côté aux gens que c'est pas parce que t'es derrière un micro, que t'as lu des livres et tout, que tu sais tout, mais pas du tout. T'en apprends tous les jours, c'est important. Et je trouvais ça intéressant. Et ça aussi, c'était un très beau moment. Il y a des trucs super, super agréables. Enfin, franchement, toutes mes interviews, j'ai passé un excellent moment. Même qu'on vient me pirater mon podcast, je passe un bon moment, c'est pour te dire.
Tu pleures des larmes de sang depuis le début, mais ça va bien.
Fanny me torture visuellement. Mais...
et ben moi, je suis arrivée un peu au bout de toutes les questions que je voulais te poser. On en garde un petit peu pour la saison 2 parce que j'espère que tu continueras de partager de ton expérience.
Je vais continuer. Il y a d'autres choses qui se profilent en dehors du podcast sur des sujets comme ça. Il y a de l'investissement et de l'engagement auprès d'associations féministes en local, en ce qui me concerne, notamment avec le planning familial, avec nous toutes. Il y a de l'investissement auprès des gens que je peux accompagner, parce que c'est une activité que je veux lancer. Je propose aussi des ateliers pour les parents qui peuvent être super chouettes. Et en fait, l'idée, si tu veux, c'est d'amener tout ce côté préparation. Parce qu'en fait, le fait de devenir parent, c'est un peu comme le fait d'être manager, tu vois. Je sais pas si tu connais le principe de Peter.
Peter Pan ?
Voilà, qui s'envole. En fait, tu t'envoles dans la parentalité. Et je crois qu'on a mangé trop de sandwichs. Mais non, c'est le principe de Peter, en fait, c'est un principe de management, si tu veux. Et c'est quelque chose qui est très répandu en France. Imaginons, Fanny Vella, tu es commercial, tu vends des dessins. Voilà, mm-hmm. Tu vends des dessins et on dit que t'es hyper fort, tu fais des super dessins. Voilà, bon, en fait, c'est le cas. Donc, tu fais des super dessins et puis tu commences comme ça. Et puis, on se dit, tiens, on va la... Mais t'es dans une société, tu vois. Tiens, on va lui offrir une promotion pour le coup, puisqu'elle dessine bien. Elle va faire des grands projets. Et tu fais des grands projets. Tu vois, c'est-à-dire, tu fais une BD entière. Tu fais des choses sur tout un territoire régional, national. Voilà, tu mènes des grands projets comme ça. Et ça se passe bien parce que tu travailles toute seule. C'est toujours tes dessins, t'es compétente. Ah bah attends, si elle est compétente à ça, eh ben on va la mettre responsable d'équipe sur tout le territoire national de tous nos projets de dessin. Et là, tu vas pas y arriver. Tu vas pas y arriver parce que en France, alors sauf si t'as eu éventuellement une expérience avant, mais en fait, en France, on a tendance à dire que si t'es bon techniquement dans une tâche, tu sauras la transmettre et tu sauras fédérer autour de cette tâche. Et ça, c'est une énorme bêtise. Et donc, ça s'appelle le principe de Peter, c'est-à-dire qu'on fait évoluer quelqu'un jusqu'à son niveau d'incompétence et on le laisse là. C'est-à-dire que t'es passé d'un travail que tu aimais avant, c'est-à-dire mener des grands projets, toi toute seule, faire tes dessins, machin, et t'adorer ça, à une promotion, et pour le coup, on te met en situation d'incompétence, où pour le coup, tu te sens comme une merde, et où en plus, les RH souvent disent « Non, mais on va pas la rétrograder, attends, t'imagines, ça va être pire. Non, faites-le rétrograder là, parce qu'elle va se sentir mieux dans la tâche où elle était en maîtrise. » Et sauf qu'on va pas te proposer de formation. Eh bien, devenir parent, pour moi, c'est pareil aujourd'hui en France. On estime que, par le miracle du Saint-Esprit, tu sais tout à coup tout sur le développement de l'enfant. Tu deviens parent, on n'a rien à t'apporter. Alors que ce qu'il faudrait, c'est un vrai parcours de parentalité, de formation à la parentalité pour les parents, comme il faudrait un vrai parcours de formation à la gestion de l'humain quand tu deviens responsable d'équipe, par exemple. Tu vois ? Et moi, c'est un peu comme ça que je vois la parentalité en France aujourd'hui. C'est on te place à des niveaux d'incompétence où seule ton expérience individuelle est à prendre en compte pour développer un autre être humain. Sauf que l'être humain, ça marche pas comme ça.
Ouais, mais c'est intéressant ce que tu dis. J'avais pas pensé et en fait, c'est complètement vrai. J'apprends quelque chose, vois-tu.
Ok.
non, mais c'est très bien. Et franchement, tu vois, qu'est-ce qu'on fait ? On fait une musique de fin. Ta-da-da-da, c'était papa de Marca.
Tu sais que je vais le garder pour de vrai, là.
Ce sera ton nouveau générique, j'espère bien.
Qui sait pour la saison 2 ? Non, mais ouais. En tout cas, Fanny, c'était un plaisir de me faire aborder, puisque tu es en tant que pirate des ondes, tu as pris la parole. Je vais monter à l'abordage sûrement. Alors, en fait, vous ne voyez pas, mais Fanny, je crois qu'elle essaie de faire le bruit que font les gros relous dans la rue pour aborder les meufs. Voilà, donc, voilà. En tout cas,
elle flûte.
c'était chouette de t'avoir là. J'espère que dans la saison 2, ce sera toi qui répondras à mes questions.
t'as 2 heures devant toi ou
Mais même plus. On va faire une saga Fanny Vella en fait.
Voilà, on fait une saison Fanny Vella.
Une saison Fanny Vella en 12 épisodes de 2 heures chacun.
Avec des questions, juste me laisser parler pendant 2 heures d'affilée, ça serait vraiment.
Mais allez. Allez, mais attends, moi j'ai bien vu sur tes lives, Fanny Vella par Fanny Vella, c'est j'adore.
L'autosuffisance de la nana, quoi.
Bah attends. Et non, mais comme ça, on pourra parler de ta tournée avec Shakira. Et ça sera chouette.
Tu espères un lolé, lolé, lolé.
Je l'ai, je la garde. Le pire, c'est que tout ça, on va le garder, là, pour la fin de l'épisode. C'est vraiment, tu vois, genre la fin de saison totalement qui part en vrille, quoi.
Parfait. Moi, je me disais, c'est bon, on peut se lâcher. Il va arrêter il y a 10 minutes avant qu'on parle des profs. Et puis voilà, c'est bon, mais non.
Et non, 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 là, ce sera vraiment la fin de l'épisode. Donc merci, Fanny Vella, de m'avoir abordé.
Merci, Cédric, de m'avoir laissé t'aborder. Da-da-da-da, c'était Papa Marca.
When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia, movement that inspires.
Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.
Hop, c'est encore moins. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux aussi t'abonner à Papatriarca Plus et découvrir chaque semaine un épisode bonus en plus des 60 déjà disponibles. À découvrir sur tes applis de podcast comme Pocket Cast, Castbox ou encore Apple Podcast. À très vite.